Charles Dickens, Barnabé Rudge, traduction de Monsieur Bonhomé. Chapitre 70. Monsieur Dennis avait dépêché ce petit bout d'affaire sans aucun désagrément personnel. Retiré maintenant dans la sécurité respectable de la vie privée, il eut envie d'aller se donner une heure ou deux de bon temps dans la société des dames. Dans cette aimable intention, il dirigea ses pas vers la maison où Dolly était encore emprisonnée avec Mademoiselle Herdel et où l'on avait aussi transporté Miss Miggs par ordre de Monsieur Simon Tappertit. En s'en allant le long des rues, avec ses gants de peau croisés derrière son dos et le visage animé par la douce gaieté que lui inspiraient ses heureux calculs, Monsieur Dennis pouvait se comparer à un fermier qui rumine ses gains futurs au milieu de ses blés et qui jouit par anticipation des bienfaits abondants de la Providence. De quelque côté qu'il se tournât, il voyait des amas de ruines qui lui permettaient d'amples et riches exécutions. La ville entière semblait comme une plaine où quelque bon génie avait préparé les sillons avec la charrue et semé le grain, fécondé par le temps le plus propice. Il ne lui restait plus qu'à récolter une magnifique moisson. Tout en prenant les armes et en s'associant aux actes de violence qui s'étaient commis dans le grand et simple but de conserver à Old Bailey toute sa pureté et à la potence toute son utilité première, comme aussi toute sa grandeur morale, ce serait peut-être aller trop loin d'affirmer que M. Dennis eût envisagé et deviné d'avance d'aussi heureux résultats. Il avait plutôt considéré la chose comme une de ces belles combinaisons du sort dont la loi impénétrable est de tourner au profit et à l'avantage des honnêtes gens comme lui. Il se sentait personnellement privilégié dans cette maturité prospère de la moisson promise au gibet et jamais il ne s'était autant félicité d'être le favori, l'enfant gâté de la destinée. Jamais de la vie il n'avait tant aimé cette belle dame ni montré autant de calme et de vertueuse confiance. Car de supposer que lui, on put aussi l'arrêter comme perturbateur et le punir avec les autres, c'est une idée que M. Dennis rejetait bien loin de lui comme une pure chimère. Il se disait que la ligne de conduite qu'il avait adoptée dans Newgate et le service qu'il avait rendu ce jour-là protesteraient assez haut contre tous les témoignages qui pourraient établir son identité comme complice de l'émeute. Si par hasard quelqu'un de ceux qui feraient des révélations se sentant en danger venait à déposer de sa complicité, cela ne ferait rien du tout. Et quand on découvrirait au pis-aller quelques petites indiscrétions par lui commises, l'utilité plus grande que jamais de sa profession et les commandes considérables qui allaient se présenter en foule pour l'exercice de ses fonctions ne manqueraient pas de faire qu'on mettrait de l'indulgence à passer là-dessus. En un mot, il avait joué son jeu d'un bout à l'autre avec beaucoup d'habileté. Il avait viré de bord au bon moment. Il avait livré deux des insurgés les plus notables et encore un criminel distingué par-dessus le marché. Il était donc bien tranquille, sauf pourtant, car il y avait une petite réserve à faire qui empêchait même M. Dennis de jouir d'un bonheur parfait, sauf pourtant une circonstance. C'était la détention de Dolly et de Miss Herdel dans une maison presque attenante à la sienne. C'était là la pierre d'achoppement, car si on venait à les découvrir et à les reprendre, elle pouvait, en portant contre lui témoignage, le mettre dans une situation où il y avait de grands risques à courir. D'un autre côté, les mettre en liberté, après leur avoir arraché auparavant le serment de garder le secret sans rien dire, il n'y avait pas à y penser. La considération du danger qu'il devinait de ce côté avait peut-être bien remplacé dans ce moment, chez le bourreau, son goût général pour la conversation des dames lorsque, hâtant sa course, il se dépêchait d'aller goûter les charmes de leur société, donnant de bon cœur à tous les diables les amoureuses ardeurs de Hugues et de M. Tappertit à chaque pas qu'il faisait. Quand il entra dans le misérable réduit où on les tenait enfermés, Dolly et Miss Herdel se retirèrent en silence dans le coin le plus reculé. Mais Mademoiselle Miggs, qui était très prude à l'endroit de sa réputation, tomba aussitôt à genoux et se mit à pousser des cris de mélusine. « Qu'est-ce que je vais devenir? Où est mon Simmons? Ayez pitié, mon bon gentleman, de la faiblesse de mon sexe !» Et d'autres lamentations non moins pathétiques qu'elle lançait avec une pudeur et un décorum très propres à lui faire honneur. « Mademoiselle, mademoiselle !» lui insinua Denis à l'oreille en lui faisant un signe de son index. « Venez ici, je ne veux pas vous faire de mal. Venez ici, mon agneau, voulez-vous » En entendant cette tendre épithète, Mademoiselle Mix, qui avait suspendu ses cris pour mieux l'écouter quand il avait ouvert la bouche, recommença à crier de plus belle « Oh, mon agneau, il m'appelle son agneau !» Oh, faut-il que je sois malheureuse de n'être pas venue au monde vieille et laide? Pourquoi le ciel a-t-il fait de moi la plus jeune de 6 enfants, tous défunts, et maintenant dans leur tombe bénie, excepté ma sœur mariée, qui est établie dans la cour du Lion d'or numéro 26, le second cordon de sonnette à... Ne vous ai-je pas dit que je ne veux pas vous faire de mal? Dit Denis en lui montrant une chaise pour la faire asseoir. Allons, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? « Demandez-moi plutôt ce qu'il n'y a pas !» cria Miggs en se serrant les mains dans l'agonie de la douleur. « Il y a tout, quoi !»« Mais quand je vous dis au contraire qu'il n'y a rien !» reprit le bourreau. « Voyons, commencez par ne plus faire tout ce tapage et par venir vous asseoir ici. Voulez-vous, mon petit poulet ?» Le ton caressant dont il disait ces dernières paroles aurait peut-être manqué son but s'il ne l'avait pas accompagné de plusieurs mouvements saccadés de son pouce par-dessus son épaule et de divers autres signes d'intelligence comme de cligner de l'œil et de soulever sa joue avec sa langue pour faire comprendre à la demoiselle, comme elle n'y manqua pas, qu'il désirait l'entretenir à part au sujet de Miss Airedale et de Dolly. Comme Mix avait une curiosité admirable et une jalousie très active, elle se releva et, tout en frissonnant, en tremblant, en imprimant un mouvement musculaire des plus prononcés à tous les petits os de sa gorge, elle finit par approcher un peu de lui. « Asseyez-vous, » dit le bourreau. Joignant le geste à la parole, il la jeta un peu brusquement et sans préparation sur la chaise, et pour la rassurer par un petit trait de jovialité innocente, comme il en faut pour plaire au sexe et pour le fasciner, il fit de son index une espèce de poinçon ou de vilebrequin dont il fit semblant de vouloir lui percer le flanc. Sur quoi, Mademoiselle Mix poussa encore de nouveaux cris et montra quelque envie de tomber en pâmoison. « Mon cher cœur, » lui murmura Denis à l'oreille en approchant sa chaise près de la sienne, « quand est-ce que votre jeune homme est venu ici la dernière fois, hein ?»« Mon jeune homme, bon gentleman, » répondit Mix avec un charmant embarras. « Oui, Simmons, vous savez, lui, quoi ?» « Oh oui, il est bien à moi !» cria Mix avec des éclats de douleur amère. Et en même temps, elle lançait un regard jaloux à Dolly. « À moi ! Vous avez raison, bon gentleman !» C'était juste ce que Monsieur Dennis voulait et espérait. « Ah » dit-il, regardant si tendrement, pour ne pas dire si amoureusement, Mademoiselle Mix, qu'elle était assise, comme elle en fut depuis l'observation, sur des épines plus piquantes que toutes les aiguilles et les épingles de Whitechapel, se méfiant des intentions que laissait naturellement supposer cette expression inquiétante de ses traits. « Voilà justement ce que je craignais, j'en étais sûr. Aussi, c'est sa faute à elle, pourquoi est-elle toujours à les attirer par ses coquetteries ?»« Ce n'est pas moi !» criait Mix, croisant les mains et regardant en face d'elle dans le vide désert avec une espèce de componction dévote. « Ce n'est pas moi qui voudrais me jeter à leur tête comme elle fait. Ce n'est pas moi qui aurais cette effronterie. Ce n'est pas moi qui voudrais avoir l'air de dire à toutes les créatures mâles de l'autre sexe « Venez m'embrasser !» Et ici, elle eut une chair de poule qui lui fit trembler tous les membres. « Non, non, quand on m'offrirait tous les royaumes de la terre !» « Des mondes, » ajouta-t-elle d'un ton solennel, « des milliers de mondes n'y réussiraient pas, non, quand je serais une Vénus. »« Mais vous en êtes une Vénus, vous le savez bien, » lui dit Monsieur Dennis d'un air confidentiel. « Non, je n'en suis pas une, bon gentleman, » répondit Mix en branlant la tête d'un air révolté qui semblait proclamer qu'elle savait bien qu'il ne tenait qu'à elle d'en être une, mais qu'elle en serait bien fâchée. « Non, je n'en suis pas une, bon gentleman, ne me calomniez pas !» Jusque-là, elle s'était retournée de temps en temps du côté où s'étaient retirées Dolly et Mademoiselle Airedale, et alors elle poussait un cri ou un gémissement, ou bien elle mettait la main sur son cœur en tremblant de tous ses membres afin de garder les apparences et de faire croire à ses compagnes que si elle s'entretenait avec leurs visiteurs, c'était forcée, contrainte, et qu'elle ne se résignait à ce sacrifice personnel que dans leur intérêt commun. Mais en ce moment, M. Dennis eut l'air si expressif et lui fit une grimace si singulièrement significative pour qu'elle vînt encore plus près de lui, qu'elle renonça à ses petits artifices pour lui donner sans partage sa pleine et entière attention. « Je vous demandais quand Simmons est venu ici, » lui dit Dennis à l'oreille.
pas depuis hier matin. Et encore, il n'est resté que quelques minutes. Il n'était pas venu du tout la veille.
Vous savez que tout ce qu'il a fait, c'était uniquement pour enlever celle-là, dit Dennis en indiquant Dolly du doigt le plus légèrement qu'il put et pour vous repasser un autre.
Mademoiselle Miggs, qui était tombée dans un état de désespoir intolérable en entendant la première partie de la phrase, revint un peu à elle en entendant la fin et, par la vivacité soudaine avec laquelle elle réprima ses larmes, elle eut l'air de déclarer que cet arrangement ne la contrarierait pas autrement et que c'était peut-être une chose à voir.
« Mais malheureusement, poursuivit Dennis, qui pénétra ses sentiments, malheureusement, cet autre est aussi amoureux d'elle. Et quand cela ne serait pas, cet autre est arrêté comme perturbateur, et il ne faut plus penser à lui. »
Mademoiselle Miggs retomba dans son désespoir.
« À présent, continua Dennis, il faut que je fasse évacuer la maison pour vous donner satisfaction. Qu'en dites-vous, ne ferais-je pas bien de la renvoyer d'ici pour qu'elle ne vous embarrasse plus, hein ?»
Mademoiselle Miggs, se ranimant, répondit avec beaucoup de suspensions et d'interruptions causées par son trouble excessif que c'était les tentations qui avaient été la perte de Simmons, qu'il n'y avait pas de sa faute, que c'était cette Dolly qui avait tout fait, que les hommes ne savaient pas démêler comme les femmes ces artifices odieux et que c'est pour cela qu'ils se laissaient attraper et mettre en cage comme Simmons. Qu'elle ne disait pas ça par un sentiment de rancune personnelle, bien loin de là, elle ne voulait que du bien à tout le monde. Mais comme elle savait bien que Simmons, une fois unie à quelques gaupes hypocrites et fallacieuses, elle ne voulait rien dire d'offensant pour personne, ce n'était pas dans son caractère, à quelques gaupes hypocrites et fallacieuses, ne pouvait manquer d'être misérable et malheureux pour le restant de ses jours, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir des préventions.
« Ça, c'est vrai, ajouta-t-elle, je ne demande pas mieux que de le confesser. »
Mais comme ce n'était, au bout du compte, que son opinion particulière, et qu'on pourrait croire que c'était par esprit de vengeance, elle s'excusait auprès du gentleman de ne pas vouloir en dire plus long. Il aurait beau dire, résolu à accomplir son devoir envers le genre humain, même envers les gens qui avaient toujours été ses plus cruels ennemis, elle ne voulait pas seulement l'écouter. Là-dessus, elle se boucha les oreilles et remua la tête de droite à gauche pour faire savoir à M. Dennis qu'il pouvait s'époumoner à lui parler si cela lui faisait plaisir, mais qu'à partir de ce moment, elle était sourde comme un pot.
« Voyons, ma canne à sucre, dit M. Dennis, si vos vues concordent avec les miennes, vous n'avez qu'à vous tenir couette et vous éclipser un bon moment, et demain j'aurai fait maison nette pour nous délivrer de tout ce tracas. Un moment pourtant, voilà l'autre.
« Quel autre, monsieur ?» demanda Miggs, toujours les doigts dans ses oreilles et secouant la tête avec un refus obstiné de l'entendre.
« Mais le grand, là-bas, » dit Dennis en se caressant le menton. Et il ajouta à mi-voix, comme s'il se parlait à lui-même, quelque chose comme qui dirait qu'il ne fallait pas contrarier Maître Gashford.
Mademoiselle Miggs répliqua, toujours sourde comme un pot, que si Mademoiselle Herdel le gênait, il pouvait se mettre l'esprit en repos de ce côté, que, d'après ce qui s'était passé la dernière fois entre Hugues et M. Tapertit, elle croyait savoir qu'on devait la transporter seule le lendemain soir, non pas chez eux, mais chez quelque autre. M. Dennis ouvrit de grands yeux à cette nouvelle, siffla, réfléchit, et finalement se frappa le front et remua la tête. Tout cela à la fois comme s'il venait d'attraper le fil de cette translation mystérieuse et qu'il eût arrêté son plan. Puis, il fit part de ses vues sur Dolly à Mademoiselle Miggs, qui redevint immédiatement plus sourde que jamais, sans en démordre jusqu'à la fin. Voici quel était ce plan remarquable. M. Dennis allait sur le champ s'occuper de trouver dans les insurgés quelques gaillards jeunes et entreprenants, il en avait, dit-il, déjà un en vue, qui, effrayé des menaces qu'il pourrait lui faire et alarmé par la prise de tant d'autres qui ne valaient ni mieux ni pis que lui, saisirait avec empressement une occasion de pouvoir partir à l'étranger pour y sauver sûrement son butin, quand on y mettrait pour condition de l'embarrasser de la compagnie de quelques personnes qu'il faudrait emmener de force. Que, bien entendu, cette personne qu'il faudrait emmener de force étant une jolie fille, ce serait pour lui un attrait et une tentation de plus. Une fois le ravisseur trouvé, Dennis se proposait de l'amener là le soir même, quand le grand n'y serait plus, et que Mademoiselle Miggs se serait retirée tout exprès, qu'alors on vous bâillonnerait Dolly, qu'on l'entortillerait bien dans un manteau, et qu'on l'emporterait dans quelque voiture qui l'attendrait pour l'emmener sur le bord de la rivière.
qu'il y avait là toutes sortes de facilités pour la faire transporter en contrebande dans quelque petite embarcation, gentiment et sans conflit de questions. Quant aux frais de cet enlèvement, il croyait bien, m'a vu donner, qu'il ne faudrait pas, pour les couvrir, plus de 2 ou 3 théières ou cafetières d'argent, avec un petit pourboire supplémentaire, comme un plat à muffins ou un porte-rôti. Que, comme les émeutiers avaient enterré diverses pièces d'argenterie dans différents endroits de Londres, et en particulier, à sa connaissance, dans St. James Square, qui était facile d'accès, peu fréquenté à la tombée de la nuit, et qui avait au milieu de la place une pièce d'eau bien commode, les fonds nécessaires étaient faciles à se procurer et qu'on pourrait en disposer au premier moment quand on en aurait besoin. Le ravisseur, d'ailleurs, ne serait tenu qu'à une chose, à l'emmener et à la garder au loin. On laisserait entièrement à sa discrétion le soin d'arranger et de régler tout le reste. Si Mademoiselle Mix n'avait pas été sourde, point de doute qu'elle n'eût été grandement choquée par l'indélicatesse d'une pareille proposition. Une jeune femme s'en allait avec un étranger la nuit. Car la moralité de Mix, nous l'avons déjà dit, était des plus chatouilleuses et se serait révoltée sur le champ. Mais, comme elle le dit elle-même à M. Dennis, quand il eut fini de parler, il avait perdu son temps, elle n'avait rien entendu. Tout ce qu'elle pouvait dire, toujours ses doigts dans les oreilles, c'est qu'il n'y avait qu'une sévère leçon pratique qui pût sauver la fille du serrurier de son entière ruine et qu'elle se croyait moralement obligée, ne fût-ce que pour remplir un devoir sacré envers la famille, de souhaiter que quelqu'un voulût bien se donner la peine d'entreprendre de la réformer. Mademoiselle Mix remarqua, et avec beaucoup de sens, comme une idée fortuite qui venait de lui passer par la tête, qu'elle ne craignait pas de dire que le serrurier et sa femme feraient bien entendre quelques murmures et quelques regrets s'ils venaient, par un enlèvement ou autrement, à perdre leur enfant, mais qu'il était bien rare que nous puissions savoir nous-mêmes ce qu'il nous faut dans ce monde, notre nature étant trop pécative et trop imparfaite pour que la plupart d'entre nous en vinssent à bien comprendre leurs véritables intérêts. Après cette conclusion satisfaisante de leur entretien, ils se séparèrent. Dennis pour aviser à l'exécution de ses desseins et faire une petite promenade dans sa ferme, Mademoiselle Mix pour se lancer, quand elle l'eut quitté, dans une telle explosion d'angoisse morale qu'elle attribua dans son récit à ces dames à certains propos scabreux qu'il aurait eu l'audace et la présomption de lui tenir, que le petit cœur de la triste Dolly en fut tout attendri. Aussi, la pauvrette, en dit tant, en fit tant pour apaiser la sensibilité outragée de Mademoiselle Mix, et pendant tout ce temps-là, elle paraissait si jolie, que si sa jeune chambrière n'avait pas eu, pour se consoler de son dépit furieux, la connaissance du complot qui se brassait contre elle, elle lui aurait sauté aux yeux à l'instant pour lui égratigner la figure.
Chapitre 71. Toute la journée du lendemain, Emma Airdale, Dolly et Mix restèrent claquemurés ensemble dans cette prison où elles avaient déjà passé tant de jours sans voir personne, sans entendre d'autres voix que les murmures d'une conversation chuchotée dans une chambre voisine entre les hommes chargés de les surveiller. Il paraissait y en avoir un plus grand nombre depuis quelque temps et on n'entendait plus du tout les voix de femmes qu'elles avaient pu clairement distinguer d'abord. Il semblait aussi qu'il régnât parmi eux un peu plus d'agitation, car ils étaient toujours à entrer et à sortir avec mystère et ne faisaient que questionner les nouveaux arrivants. Ils avaient commencé par ne point se gêner le moins du monde dans leur conduite, ce n'était que tapage, querelle entre eux, bataille, danses et chansons. À présent, ils étaient réservés et silencieux, ne causaient plus qu'à demi-voix, entraient ou sortaient sur la pointe du pied, au lieu de ces pas bruyants et de ces démarches fanfaronnes dont le fracas annonçait leur arrivée ou leur départ à leur captive tremblante. Ce changement venait-il de ceux qu'il y avait maintenant quelques personnes d'autorité parmi eux, dont la présence leur imposait, ou bien fallait-il l'attribuer à d'autres causes ? Elles n'en pouvaient rien savoir. Quelquefois, elles s'imaginaient qu'il fallait en imputer la raison à ce qu'il y avait dans cette chambre un malade, parce que la nuit précédente, on avait entendu un piétinement de gens qui paraissaient apporter un fardeau, et après cela un bruit semblable à un gémissement, mais elles n'avaient aucun moyen de s'en assurer. Les moindres questions, les moindres prières de leur part ne leur attiraient qu'un orage de jurements ou d'insultes pires encore, et elles ne demandaient qu'une chose, c'était qu'on les laissât tranquilles,
sans avoir à subir de menaces ou de compliments. Trop heureuses de cet isolement pour risquer de compromettre la paix qu'elles y trouvaient par quelques communications aventureuses avec ceux qui les tenaient en captivité. Il était bien évident pour Emma, et même pour la pauvre petite fille du serrurier, que c'était elle, Dolly, qui était le grand objet de convoitise de ces brigands, et qu'aussitôt qu'ils auraient le loisir de s'occuper de soins plus tendres, Hugues et M. Tappertit ne manqueraient pas d'en venir au coup pour elle, auquel cas il n'était pas difficile de prévoir à qui tomberait cette jolie prise. En proie à son ancienne horreur pour ce misérable, ravivée maintenant par le danger et devenue un sentiment indicible d'aversion et d'épouvantable dégoût, en proie à mille souvenirs, à mille regrets, à mille sujets d'angoisse, d'anxiété, de crainte qui ne lui laissaient aucun repos, la pauvre Dolly Varden, la suave, la florissante, la folâtre Dolly, commençait à pencher la tête, à se faner et se flétrir comme une belle fleur. Les roses s'éteignaient sur ses joues, son courage l'abandonnait, son triste cœur était en défaillance. Adieu tous ses caprices provoquants, ses goûts de conquête et d'inconstance, toutes ses petites vanités séduisantes, il n'en restait plus rien. Elle demeurait blottie tout le long du jour contre le sein d'Emma Herdel, tantôt appelant son cher père, son vieux père en cheveux gris, tantôt sa mère, tantôt soupirant même après son logis, si précieuse à sa mémoire. Elle dépérissait lentement, comme un pauvre oiseau dans sa cage. Cœur léger qui vous laissez doucement entraîner au courant paisible de la vie, étincelant et flottant gaiement sur ses eaux aux rayons du soleil, duvet de la pêche, fleur des fleurs, vapeur purpurine du jour d'été, âme de l'insecte ailé qui ne vit qu'un jour, ah, il faut peu de temps pour vous plonger au fond du torrent quand il est troublé par l'orage. Le cœur de la pauvre Dolly, cette petite chose si gentille, si insouciante, si mobile, toujours dans le vertige d'une agitation sans fin et sans repos, qui ne connaissait de constance que dans ses regards pénétrants, son sourire gracieux et les éclats de sa joie, le cœur de Dolly allait se briser. Emma, qui avait connu la douleur, était plus capable de la supporter. Elle n'avait pas grande consolation à donner, mais elle pouvait toujours calmer et soigner sa compagne. Elle n'y manquait pas. Et Dolly ne la quittait pas plus que l'enfant ne quitte sa nourrice. En essayant de lui rendre quelque courage, elle augmentait le sien, et quoique les nuits fussent bien longues, les jours bien pénibles, et qu'elle ressentît la funeste influence de la veille et de la fatigue, quoiqu'elle eût peut-être une idée plus claire et plus distincte de leur isolement et des périls effrayants qui en étaient la suite, elle ne laissait pas échapper une plainte. Devant les bandits qui les tenaient en leur pouvoir, elle avait à la fois dans sa tenue tant de calme et de dignité. Au milieu même de ses terreurs, elle montrait si bien sa conviction secrète qu'ils n'oseraient pas la toucher, qu'il n'y en avait pas un parmi eux qui ne la regardât avec un certain sentiment de crainte. Il y en avait même qui la soupçonnaient de porter sur elle quelque arme cachée, toute prête à en faire usage. Telle était leur condition lorsque Mademoiselle Miggs vint les rejoindre, leur donnant à entendre qu'elle aussi, elle avait été emprisonnée avec elle pour ses charmes et leur contant par le menu tant d'exploits de sa résistance héroïque dont elle avait puisé la force surnaturelle dans sa vertu, qu'elles regardèrent comme un bonheur d'avoir avec elle un pareil champion. Et ce ne fut pas la seule consolation qu'elles tirèrent d'abord de la présence de Miggs et de sa société. Car cette jeune demoiselle déploya tant de résignation et de longanimité, tant de patience céleste dans ses peines, enfin tous ses chastes discours respiraient tant de pieuse confiance et de soumission, tant de dévote assurance de voir tout cela finir bien, qu'Emma se sentit encouragée par ce brillant exemple, sans mettre en doute la vérité de tout ce qu'elle disait, et bien persuadée que c'était, comme elle, une victime arrachée à tout ce qu'elle aimait, en proie à toutes les souffrances de l'inquiétude et de la crainte. Quant à la pauvre Dolly, elle fut un peu ranimée d'abord à la vue d'une personne qui lui rappelait la maison paternelle, mais en apprenant dans quelles circonstances elle l'avait quittée et dans quelles mains était tombé son père, elle se remit à verser des larmes plus amères que jamais et à refuser toute consolation. Mademoiselle Miggs se donnait bien du mal à lui faire des remontrances sur ses dispositions d'esprit, à la supplier de prendre exemple sur elle. « Voyez-moi, disait-elle, voyez comme je recueille à présent, à de gros intérêts, 10 fois le montant de mes souscriptions à la petite maison rouge,
par la paix de l'âme et la tranquillité de conscience qu'elle me procure. Et pendant qu'elle en était sur ces sujets sérieux, elle crut de son devoir d'essayer la conversion de Miss Herdel. Pour son édification, elle se lança dans une polémique assez confuse, dans le cours de laquelle elle se comparait à un missionnaire d'élection et mademoiselle à un cannibale réprouvé. Enfin, elle revint si souvent là-dessus, elle les conjura tant de fois de prendre exemple sur elle, avec un suave mélange de vanterie et de modestie, en songeant à son mérite indigne et à l'énormité de ses péchés, qu'elle ne tarda pas à les ennuyer plutôt qu'à les consoler dans cet endroit réduit, et les rendit encore plus malheureuses, s'il était possible, qu'elles ne l'avaient été avant sa venue. Cependant, la nuit était arrivée, et pour la première fois, car leur geôlier avait toujours mis beaucoup d'exactitude à leur apporter le soir des lumières et leur nourriture, on les laissa dans l'obscurité. Tout changement d'habitude dans leur situation et dans un pareil lieu leur inspirait naturellement de nouvelles craintes. Et au bout de quelques heures qu'on les eut laissés ainsi dans les ténèbres, Emma ne put réprimer plus longtemps ses inquiétudes. Elles prêtèrent une oreille attentive. C'étaient toujours les mêmes chuchotements dans la chambre voisine, avec un gémissement de temps en temps, poussé à ce qu'il semblait par une personne très souffrante et qui faisait, mais en vain, tout ce qu'elle pouvait pour étouffer ses plaintes. Ces hommes semblaient aussi dans l'obscurité de leur côté, car on ne voyait pas briller la moindre lueur à travers les fentes de la porte. Ils ne remuaient pas comme à l'ordinaire. Ils avaient l'air de se tenir quoi ? C'est tout au plus si l'on entendait par hasard rompre le silence par quelque chose comme le craquement d'un buffet qu'on ouvrait. Dans les commencements, Mademoiselle Miggs s'étonnait grandement en elle-même de ce que ce pouvait être que cette personne malade. Mais après réflexion, elle en vint à penser que c'était sans doute un stratagème qui rentrait dans le plan en exécution, un artifice habile destiné, selon elle, à un grand succès pour apporter à Miss Herdel quelques consolations. Ce devait être un mécréant de papiste qui avait été blessé, et cette heureuse supposition l'encouragea à dire plusieurs fois à mi-voix « Dieu soit lié, Dieu soit lié ». « Est-il possible, dit Emma avec quelque indignation, vous qui avez vu tous les outrages dont vous nous avez parlé et qui avez fini par tomber entre leurs mains, que vous veniez louer Dieu de leur cruauté ?»« Les considérations personnelles, mademoiselle, répliqua Miggs, sont moins que rien devant une si noble cause. Dieu soit lié, Dieu soit lié, mes bons messieurs. » On aurait cru, à entendre la voix perçante de Mademoiselle Miggs répétant obstinément cet Alléluia d'un nouveau genre, qu'elle le criait jusque par le trou de la serrure, mais il faisait trop noir pour qu'on pût la voir. S'il doit venir un temps, et Dieu sait que cela peut être d'un moment à l'autre, où ils voudront mettre à exécution les projets, quels qu'ils soient, pour lesquels ils nous ont amenés ici, pouvez-vous encore les encourager comme vous faites et avoir l'air de prendre leur parti ? Demanda Emma. « Si je le puis, certainement, oui, grâce en soit rendue à mes bonnes étoiles du bon Dieu. Certainement, je le puis et je le fais, » reprit Miggs avec un redoublement d'énergie. « Dieu soit lié, mes bons messieurs. » Dolly elle-même, tout abattue, tout anéantie qu'elle était, se ranima à ce cri et ordonna à Miggs de se taire sur le champ. « À qui faites-vous l'honneur d'adresser cette observation, Miss Varden ?» dit Miggs en appuyant avec une attention marquée sur le pronom interrogatif. Dolly lui répéta son ordre. « Bonté divine !» cria Miggs en se tenant les côtes à force de rire. « Bonté divine ! Bien sûr que je vais me taire. Oh mon Dieu, oui ! Ne suis-je pas une vile esclave qui n'est bonne qu'à travailler, peiner, se fatiguer, se faire gronder, vilipender, qui n'a seulement pas le temps de se débarbouiller, en un mot, le vaisseau du potier, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oh mon Dieu, oui, ma position est humble, mes capacités bornées, mais mon devoir est de m'humilier devant les filles dégénérées, dénaturées, de bonnes et dignes mères, de vraies saintes qui souffrent le martyre à voir toutes les persécutions qu'elles ont à souffrir de leur famille corrompue. Mon devoir est peut-être aussi de courber l'échine devant elles, ni plus ni moins que les infidèles devant leurs idoles, n'est-ce pas, mademoiselle ?
Oh mon Dieu, oui, je ne suis bonne qu'à aider de jeunes coquettes païennes à se brosser, à se peigner, à se transformer en sépulcre blanchi pour faire croire aux jeunes gens qu'il n'y a pas seulement là-dessous un morceau de ouate pour remplir les vides, ni cosmétiques, ni pommades, ni aucune invention de Satan et des vanités terrestres. N'est-ce pas, mademoiselle? Oh, certainement, mon Dieu, oui.
Après avoir débité cette tirade ironique avec une volubilité étonnante et surtout avec une voix perçante qui étourdissait les oreilles, surtout quand elle lançait comme autant de fusées chaque interjection, mademoiselle Mix, par pure habitude et non pas parce que les larmes pouvaient être justifiées par la circonstance, puisqu'il s'agissait pour elle d'un vrai triomphe, termina en répandant un ruisseau de pleurs et en appelant du ton le plus pathétique le doux nom de Simmons. Qu'est-ce que Emma Herdel et Dolly allaient faire? Et où se serait arrêtée mademoiselle Mix une fois qu'elle avait arboré franchement son drapeau et qu'elle se disposait à le balancer victorieusement sous leurs yeux étonnés? C'est ce qu'il est impossible de savoir. Mais d'ailleurs, il serait inutile d'approfondir cette question, car il y eut sur le moment même un incident saisissant qui vint interrompre le cours de l'éloquence de Miggs et enlever d'assaut leur attention tout entière. C'était un violent coup de marteau frappé à la porte de la maison qu'on entendit immédiatement s'ouvrir brusquement, puis tout de suite une bagarre dans l'autre chambre et un bruit d'armes. Transportés par l'espérance que l'heure de la délivrance était enfin arrivée, Emma et Dolly appelèrent à grands cris au secours et leurs cris reçurent bientôt une réponse. Au bout d'un moment à peine d'intervalle, un homme, portant d'une main une épée nue et de l'autre un flambeau, se précipita dans la chambre qui leur servait de prison. Leurs premiers transports furent réprimés par la vue d'un étranger, car elles ne connaissaient pas l'homme qui se présentait alors à leurs yeux. Cependant, elles s'adressèrent à lui pour le supplier, dans les termes les plus pathétiques, de les rendre à leur famille. « Et croyez-vous que je sois ici pour autre chose ?» répondit-il en fermant la porte contre laquelle il appuya son dos, comme pour en défendre le passage. « Pourquoi donc, vous imaginez-vous, que je me sois frayé un passage jusqu'à vous à travers tant de dangers et tant d'obstacles, si ce n'est pas pour vous sauver ?» Avec une joie impossible à décrire, elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre en remerciant le ciel de ce secours inespéré. Leur libérateur s'avança de quelques pas pour mettre le flambeau sur la table et, retournant sur le champ prendre sa première position, il ôta son chapeau et les regarda d'un air souriant. « Vous avez des nouvelles de mon oncle, monsieur ?» dit Emma, se tournant vivement de ce côté. « Et de mes pères et mères ?» ajouta Dolly. « Oui, dit-il, de bonnes nouvelles. Ils sont vivants et sains et saufs » crièrent-elles à la fois. « Vivants et sains et saufs. » répéta-t-il. « Et tout près de nous ?»« Je ne puis pas dire cela, » répondit-il d'un air doucereux. « Ils sont au contraire bien loin. »« Les vôtres, ma mignonne, » ajouta-t-il en s'adressant à Dolly, « ne sont qu'à quelques heures d'ici. Vous pourrez leur être rendu, j'espère, cette nuit. »« Mon oncle, monsieur, » balbutia Emma. « Votre oncle, chère demoiselle Herdel, heureusement, » Je dis heureusement parce qu'il s'est tiré mieux qu'un grand nombre de nos corréligionnaires de ce conflit, est en lieu de sûreté. Il a traversé la mer et s'est réfugié sur le continent. « Dieu soit béni, » dit Emma, presque défaillante. « Vous avez bien raison, il y a de quoi le bénir, plus que vous ne pouvez l'imaginer peut-être, n'ayant pas eu la douleur de voir une seule de ces nuits de cruels outrages. « Désire-t-il, » dit Emma, « que j'aille le rejoindre ?» « Comment pouvez-vous me le demander ?» cria l'étranger d'un air de surprise. « S'il le désire, mais vous ne savez donc pas le danger qu'il y aurait pour vous à rester en Angleterre, la difficulté d'échapper, tous les sacrifices que feraient volontiers des milliers de personnes pour en acheter les moyens. Sans cela, vous ne me feriez pas pareille question. Mais pardon, j'oubliais que vous ne pouviez pas vous douter de tout cela, étant restée ici prisonnière. » « Je m'aperçois, monsieur, » dit Emma après un moment de silence, « par tout ce que vous venez de me faire entendre sans oser me le dire, que je n'ai vu que la première et la moins violente des scènes de désordre dont nous pouvions être menacés et que leur furie ne s'est pas encore ralentie. » Il haussa les épaules, secoua la tête, leva les mains au ciel et toujours avec le même sourire doucereux qui n'était pas agréable à voir, abaissa ses yeux à terre et resta silencieux. « Vous pouvez hardiment, monsieur, reprit Emma, me dire toute la vérité. Les mots par lesquels nous venons de passer nous ont préparés à tout entendre. » Mais ici, Dolly s'entremit pour la prier de ne pas insister pour savoir tout, le mal comme le bien, et supplia le gentleman de ne dire que le bien et de garder le reste pour le moment où elles seraient réunies avec leurs parents et leurs amis. « Cela peut se dire en deux mots, répondit-il en lançant à la fille du serrurier un regard de dépit. Le peuple s'est levé comme un homme contre nous. Les rues sont remplies de soldats qui soutiennent l'insurrection et font cause commune avec elle. Nous n'avons aucun secours à attendre d'eux, et point d'autre salut que la fuite. Encore est-ce une pauvre ressource, car on nous épie de tous côtés, et on veut nous retenir ici par la force ou par la fraude. Miss Herdelle, il m'est pénible, croyez-le bien, de vous parler de moi, ou de ce que j'ai fait, ou de ce que je suis disposé à faire. J'aurais trop l'air de vous vanter mes services. Mais comme j'ai des connaissances puissantes parmi les protestants, et que toute ma fortune est embarquée dans leur navigation et leur commerce, j'ai eu le bonheur de trouver là le moyen de sauver votre oncle. Je puis vous sauver de même, et c'est pour acquitter la promesse sacrée que je lui ai faite de ne pas vous quitter avant de vous avoir remise dans ses bras que vous me voyez ici. La trahison ou le repentir d'un des hommes qui vous entourent m'a fait découvrir votre retraite, et vous voyez comment je m'y suis frayé un chemin, l'épée à la main. « Vous m'apportez, sans doute, dit Emma défaillante, quelques lettres ou quelques gages de la part de mon oncle. « Non, il n'en a pas, cria Dolly en lui montrant l'étranger avec vivacité. Je suis sûr à présent qu'il n'en a pas. Pour tout au monde, n'allez pas avec lui. « Taisez-vous, petite sotte, taisez-vous, répliqua-t-il en fronçant le sourcil avec colère. « Non, mademoiselle Herdelle, je n'ai ni lettre ni gage d'aucune espèce, car, en vous montrant de la sympathie à vous et à ceux d'entre vous qui vous trouvez victime d'un malheur si accablant et si peu mérité, je ne me dissimule pas que j'expose ma vie, et je n'avais pas envie, par conséquent, d'apporter sur moi une lettre qui m'aurait valu une mort certaine. Je n'ai pas songé un moment à demander, ni M. Herdelle, à me proposer le moindre gage de la fidélité de mon message. » Peut-être aussi n'en a-t-il pas eu l'idée, se fiant à la parole, à la sincérité d'un homme à qui il devait la vue. Il y avait dans cette réponse un reproche qui ne pouvait manquer son effet sur un caractère confiant et généreux comme celui de Miss Herdelle. Mais Dolly, qui n'était pas si candide, n'en fut pas touchée le moins du monde et continua de la conjurer, dans les termes de l'affection et de l'attachement les plus tendres, de ne pas s'y laisser prendre. « Le temps presse, » dit leur visiteur, qui, malgré ses efforts pour leur témoigner le plus vif intérêt, avait jusque dans son langage une certaine froideur qui glaçait l'oreille, « et le danger nous menace. Si je m'y suis exposé pour vous en vain, à la bonne heure, seulement promettez-moi, si nous nous retrouvons jamais, de me rendre témoignage. Si vous êtes décidé à rester, comme je le suppose, rappelez-vous, mademoiselle Herdelle, que je n'ai pas voulu vous quitter sans vous donner un avertissement solennel, sans me laver les mains de toutes les conséquences dont vous voulez courir les risques. « Arrêtez, monsieur, cria Emma, encore un moment, je vous prie. Ne pouvez-vous pas, et elle tenait Dolly serrée plus près encore de son cœur, ne pouvez-vous pas nous emmener ensemble ?»« C'est déjà une tâche assez difficile, répondit-il, d'emmener une femme en toute sûreté, au milieu des scènes que nous allons rencontrer, sans compter que nous devons éviter d'attirer l'attention de la foule rassemblée dans les rues. Je vous ai dit qu'elle sera rendue cette nuit à ses parents. Si vous acceptez mon offre de service, mademoiselle Herdelle, je vais la faire à l'instant placer sous bonne garde pour acquitter ma promesse. Êtes-vous décidé à rester ? Il y a en ce moment des gens de tout rang et de toute religion qui cherchent à se sauver de la ville, saccagée d'un bout à l'autre. Permettez-moi d'aller voir si je ne puis pas me rendre utile à quelques autres. Partez-vous ou restez-vous ? Dolly, dit Emma d'un ton précipité, ma chère enfant, nous n'avons plus que cette seule espérance. Si nous nous séparons à présent, c'est seulement pour nous retrouver plus tard, heureuses et honorées. « Je me confie à ce gentleman. »« Non, non, non !» criait Dolly, qui ne voulait pas la lâcher. « Je vous en prie, je vous en supplie, n'en faites rien. »« Vous l'entendez, dit Emma, cette nuit même, dans quelques heures, songez-y, vous allez être au milieu de ceux qui mourraient de chagrin loin de vous, et que votre absence plonge en ce moment dans le plus profond désespoir. vous prierez pour moi, cher enfant, comme je prierai de mon côté pour vous. N'oubliez jamais les heures de douce paix que nous avons passées ensemble. Dites-moi que Dieu vous bénisse et séparons-nous avec ce souhait. » Mais Dolly ne voulut rien dire. Non, malgré tous les baisers qu'Emma déposait sur sa joue, qu'elle couvrait en même temps de ses larmes, tout ce que Dolly pouvait faire, c'était de se pendre à son cou, de sangloter, de l'étreindre sans vouloir la lâcher. « Voyons, nous n'avons plus de temps pour tout cela !» cria l'homme en lui desserrant les mains et la repoussant rudement, en même temps qu'il attirait Emma Herdel du côté de la porte. « À présent, dehors, vite, sommes-nous prêts ?»« Ouida !» cria une voix retentissante qui le fit tressaillir. « Tout prêt, arrière, où vous êtes mort !» Et au même instant, il fut jeté par terre comme un bœuf dans l'abattoir. Il fut terrassé du cou comme si un bloc de marbre venait de se détacher du toit pour l'écraser sur la place. Puis on vit entrer à la fois une lumière éclatante et des visages rayonnants, et Emma se sentit étreindre dans les embrassements de son oncle, et Dolly, avec un cri qui perça l'air, tomba dans les bras de son père et de sa mère. Comme on se pâmait, comme on riait aux éclats, comme on pleurait, comme on sanglotait, comme on se souriait, comme on s'adressait une foule de questions dont on n'attendait pas la réponse, parlant tous ensemble sans savoir ce qu'on disait dans ces transports de joie. Et puis, après, comme on s'embrassait, comme on se félicitait, comme on se serrait dans les bras les uns des autres, comme on s'abandonnait à tous les ravissements du bonheur, encore et encore et toujours. Il n'y a pas moyen de dépeindre cette scène-là. Enfin, après bien longtemps, le vieux serrurier alla accoler bel et bien deux étrangers qui s'étaient tenus à part tout seuls devant ce tableau. Et alors, qu'est-ce qu'on vit là? Qui ça? C'était bien, ma foi, Edward Chester et Joseph Willett. « Regardez, cria le serrurier, regardez, par ici, où serions-nous tous censés de là? Eh, monsieur Edward, monsieur Edward! Oh, Joe, Joe, comme vous avez soulagé mon cœur ce soir! Et pourtant, il est encore bien plein. » « C'est monsieur Edward qui l'a flanqué par terre, dit Joe. J'en avais grande envie pour mon compte, mais je lui en fais le sacrifice. Allons, mon brave et honnête gentleman. Reprenez vos sens, car vous n'avez pas longtemps à vous dorloter comme ça par terre. » En même temps, il avait le pied sur la poitrine du faux libérateur et le roulait tout doucement. Gashford, car c'était bien lui et pas un autre, bas et rampant, mais aussi méchant que jamais, souleva sa face malfaisante, comme dans le tableau du péché terrassé par l'ange, et demanda qu'on le traitât doucement. « Je sais où trouver tous les papiers de Milord, monsieur Herdel, » dit-il d'une voix soumise, pendant que monsieur Herdel lui tournait le dos, sans le regarder seulement une fois, « et il y a dans le nombre des documents très importants. Il y en a beaucoup dans des tiroirs secrets et dans d'autres endroits qui ne sont connus que de Milord et de moi. Je puis fournir à l'accusation des renseignements précieux et rendre de grands services à l'enquête. Vous aurez à répondre de cela si vous me faites subir de mauvais traitements. » « Pouah !» cria Joe avec un profond dégoût. « L'avez-vous, eh, l'homme de bien. On vous attend dehors, voyons, debout, entendez-vous » Gashford se releva lentement, ramassa son chapeau, et regardant tout autour de la chambre d'un air de malveillance déconfite, mais en même temps d'humilité méprisable, se glissa dehors furtivement. « Et à présent, messieurs, » dit Joe, qui paraissait être l'orateur de la troupe, car tous les autres gardaient le silence, « plus tôt nous serons revenus au Lion Noir, mieux cela vaudra, je crois. » Monsieur Herdel fit un signe d'assentiment et, passant sous son bras le bras de sa nièce, en prenant une de ses mains qu'il pressa dans les siennes, il sortit tout droit, suivi du serrurier, de Madame Varden et de Dolly, qui vraiment, quand elle aurait été à elle toute seule une douzaine de Dolly, n'aurait pas présenté assez de surface pour contenir tous les embrassements et les caresses dont elle était comblée par ses parents. Edward Chester et Joe fermaient la marche. Et vous me demanderez peut-être si c'est que Dolly ne retourna pas une fois la tête pour regarder derrière elle, pas même une pauvre fois. S'il n'y eut pas, comme un petit clignotement égaré de ses cils d'ébène, presque à fleur de sa joue rougissante, comme un petit éclair de l'œil étincelant, quoique abattu, qu'il voilait à demi. Dame, Joe le crut, et il est bien probable qu'il ne s'était pas trompé, car il n'y avait pas beaucoup d'yeux comme ceux de Dolly. C'est une justice à leur rendre. La chambre voisine qu'il leur fallait traverser était pleine de gens, parmi lesquels M. Dennis, qui était sous bonne garde et près de là, depuis la veille, dans une cachette dont on avait tiré la coulisse. Simon Tapertit, l'amusant apprenti, couvert de brûlures et de contusions, avec un coup de feu dans le côté et des jambes, des jolies jambes que vous savez, l'orgueil et la gloire de son existence, d'une laideur difforme grâce aux meurtrissures dont elles avaient été victimes. Comprenant à présent les gémissements qui l'avaient tant étonné, Dolly se serra contre son père, toute frissonnante à cette vue, mais les contusions, les brûlures, les meurtrissures, le coup de feu, toute la torture enfin qu'il subissait dans chacun de ses membres détraqués, ne causèrent pas au cœur de Simmons la moitié de la douleur qu'il éprouva en voyant passer Dolly pour sortir avec Joe, son libérateur. Il y avait une voiture toute prête à la porte pour le voyage, et Dolly fut toute heureuse de s'y trouver en liberté dans l'intérieur, accompagnée de son père, de sa mère, d'Emma Herdel, et de son oncle en personne, naturelle, assis vis-à-vis d'elle, mais point de Joe ni d'Edouard, qui n'avaient rien dit. Ils étaient contentés de leur faire un salut et s'étaient tenus à distance. Le voyage allait lui paraître bien long pour arriver au Lion Noir.
Chapitre 72. En effet, le Lion Noir était si loin, et il fallait tant de temps pour y arriver, que malgré les fortes présomptions que Dolly trouvait en elle-même de la réalité des derniers événements, dont les effets étaient bien visibles, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que ce ne pouvait être qu'un rêve qui durait toute la nuit. Elle se défiait de ses yeux et de ses oreilles, même quand elle vit, à la fin des fins, la voiture s'arrêter au Lion Noir, l'hôte de cette taverne approchée à la lueur éclatante d'une prodigalité de flambeaux pour les aider à descendre et leur souhaiter une cordiale bienvenue. Ce n'est pas le tout, à la portière de la voiture, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, étaient déjà Edward Chester et Joe Willett. Il fallait qu'ils fussent venus par derrière dans une autre voiture, procédé si étrange, si bizarre, si inexplicable, que Dolly n'en était que plus disposée à se bercer de l'idée qu'elle dormait de plus en plus profondément. Mais quand M. Willett apparut aussi, le vieux John lui-même, avec sa grosse caboche têtue et son double menton si copieux que l'imagination la plus téméraire, dans ses conceptions les plus extravagantes, n'aurait jamais rêvé un menton avec de si vastes proportions, alors elle reconnut son erreur et fut bien obligée de s'avouer qu'elle était, ma foi, bien éveillée. Et Joe, qui n'avait plus qu'un bras. Joe, ce joli garçon, si bien tourné, si bel homme. Quand Dolly jeta un regard de son côté et qu'elle pensa au mal qu'il avait dû souffrir au pays lointain où il était allé se perdre, et qu'elle se demanda qui est-ce qui avait été sa garde malade, souhaitant dans son cœur que cette femme, quelle qu'elle fût, l'eût soignée avec autant de bonté et de ménagement qu'elle l'eût fait elle-même, les larmes montèrent à ses beaux yeux, une par une, petit à petit, si bien qu'elle ne put plus les retenir et se mit à pleurer devant tout le monde comme une madeleine. « Nous voilà tous maintenant, Dolly, » lui dit son père avec douceur. « Nous ne serons plus séparés. Courage, ma chérie, courage. » La femme du serrurier devinait peut-être mieux que lui la cause du chagrin de sa fille. Mais Madame Varden n'était plus du tout la même femme. C'était toujours cela qu'on devait à l'émeute. Elle joignit donc aussi ses consolations à celles de son mari et adressa à sa fille des représentations amicales du même genre. « Peut-être bien, » dit M. Willett Senior en regardant la compagnie à la ronde, « peut-être bien qu'elle a faim. Ça doit être ça, soyez-en sûr, c'est comme moi. » Le Lion Noir, qui, à l'exemple du vieux John, avait prolongé l'attente du souper au-delà de tout délai raisonnable et tolérable, applaudit à cet amendement comme à la découverte philosophique la plus profonde et la plus fine à la fois, et comme la table était toute servie, on se mit au souper à l'instant même. La conversation ne fut pas des plus animées, et il y avait bien quelques convives qui n'avaient pas un gros appétit.
mais le vieux John ne laissa languir ni l'un ni l'autre, et si quelqu'un eut ce double tort, il fut bien réparé par le vieux John qui ne s'était jamais tant distingué. Ce n'est pas que M. Willett soutint une conversation bien suivie, ce n'est pas par là qu'il brilla au souper. Il n'avait pas là un seul de ses vieux camarades d'enfance à asticoter, et il n'osait trop s'y risquer avec Joe. Il avait à son égard quelques vagues pressentiments que ce gaillard-là, au premier mot qu'il ne lui plairait pas, flanquerait par terre le lion noir et s'en irait tout droit en Chine ou dans quelque autre région lointaine également inconnue pour le restant de ses jours, ou au moins jusqu'à ce qu'il se fût débarrassé du bras qui lui restait et de ses deux jambes, peut-être même d'un œil ou de quelque chose comme ça par-dessus le marché. Le beau de la conversation de M. Willett, c'était une espèce de pantomime dont il animait chaque intervalle de silence et qui faisait dire au lion noir, son ami intime depuis longues années, qu'il ne l'avait jamais vu comme ça et qu'il dépassait l'attente et l'admiration de ses amis les plus émerveillés de son esprit. Le sujet qui occupait toutes les méditations de M. Willett et qui occasionnait ses démonstrations mimiques n'était autre que le changement corporel qu'avait subi son fils. Il n'avait jamais pu prendre sur lui d'y croire et de s'en rendre raison. Peu de temps après leur première entrevue, on s'était aperçu qu'il s'en était allé d'un air égaré, dans un état de grande perplexité, tout droit à la cuisine, dirigeant son regard sur le feu de l'âtre comme pour consulter son conseiller ordinaire en matière de doute et dans les cas embarrassants. Seulement, comme il n'y avait pas de chaudron au lion noir, et que le sien avait été si bien arrangé par les insurgés qu'il était tout à fait hors de service, il sortit encore d'un air égaré, dans un effroyable gâchis de confusion morale, et dans son incertitude, il avait recours aux moyens les plus étranges pour dissiper ses doutes. Par exemple, d'aller tâter la manche de Joe, comme s'il croyait que le bras de son fils était peut-être caché dedans, ou de regarder ses propres bras et ceux de tous les autres assistants, comme pour s'assurer que c'était bien deux et non pas un qui était le lot ordinaire de chacun, ou de rester assis une heure de suite dans une méditation profonde, comme s'il essayait de se remettre en mémoire l'image de Joe quand il était plus jeune, et de se rappeler si c'était réellement un bras qu'il avait dans ce temps-là, ou s'il y avait bien la paire. Enfin, de se donner une foule d'occupations et d'imaginer une foule de vérifications du même genre. Se voyant donc au souper entouré de visages qu'il avait si bien connus dans son vieux temps, M. Willett reprit son sujet avec une nouvelle vigueur. On voyait qu'il était décidé à savoir le fin mot aujourd'hui ou jamais. Tantôt, après avoir mangé deux ou trois bouchées, il déposait sa fourchette et son couteau pour regarder fixement son fils de toute sa force, surtout du côté mutilé. Puis il promenait ses yeux tout autour de la table jusqu'à ce qu'il eût rencontré ceux de quelques convives, et alors il remuait la tête avec une grande solennité, se donnait une petite tape sur l'épaule, clignait de l'œil pour ainsi dire, car un clin d'œil n'était pas chez lui synonyme d'un mouvement rapide. Il y mettait le temps. Il serait plus exact de dire qu'il se mettait à dormir d'un œil pendant une minute ou deux. Puis il donnait encore à sa tête une secousse solennelle, reprenait son couteau et sa fourchette et se remettait à manger. Tantôt, il portait à sa bouche un morceau d'un air distrait et, concentrant sur Joe toutes ses facultés, le regardait dans un transport de stupéfaction, couper sa viande d'une seule main jusqu'à ce qu'il fût rappelé à lui par des symptômes d'étouffement qui finissaient par lui rendre sa connaissance. D'autres fois, il imaginait une foule de petits détours comme de lui demander le sel ou le poivre ou le vinaigre ou la moutarde, tout ce qu'il voyait du côté mutilé, et observait comment son fils faisait pour lui passer ce qu'il lui avait demandé. À force de répéter ses expériences, il finit par se donner pleine satisfaction et se convaincre si bien qu'après un intervalle de silence plus long que tous les précédents, il remit sa fourchette et son couteau aux deux côtés de son assiette, but une bonne gorgée au pot d'étain qu'il avait près de lui, toujours sans perdre Joe de vue, et se renversant sur le dos de sa chaise, avec un gros soupir, dit en regardant les convives à la ronde, « On l'a coupé !»« Par Saint-Georges, » dit de son côté le lion noir en frappant sa main contre la table, « il a trouvé ça !»« Oui, monsieur, » reprit M. Willett, de l'air d'un homme qui sentait qu'il avait bien gagné le compliment qu'on faisait de sa sagacité et qu'il le méritait. « On dira ce qu'on voudra, on l'a coupé !»« Racontez-lui donc où ça vous est arrivé, » dit le lion noir à Joe. « À la défense de la savannah, mon père,
à la défense de la Savaigne, répéta M. Willett tout bas, en jetant encore un regard autour de la table. « En Amérique, dans le pays qui est en guerre, » dit Joe. « En Amérique, dans le pays qui est en guerre, » répéta M. Willett. « On l'a coupé à la défense de la Savaigne en Amérique, dans le pays qui est en guerre. » Après avoir continué de se répéter en lui-même ces paroles à voix basse, notez que c'était bien la 50e fois qu'on lui avait déjà donné auparavant ce renseignement dans les mêmes termes, M. Willett se leva de table, tourna autour de Joe, lui tâta sa manche tout du long, depuis le poignet jusqu'au moignon, lui donna une poignée de main, alluma sa pipe, en tira une bonne bouffée, se dirigea vers la porte, se retourna quand il y fut, se frotta l'œil gauche avec le dos de son index et dit d'une voix défaillante « Mon fils a eu le bras coupé à la défense de la Savaigne en Amérique dans le pays qui est en guerre. » Là-dessus, il se retira pour ne plus revenir de toute la nuit. Au reste, sous un prétexte ou sous un autre, chacun en fit autant à son tour, excepté Dolly, qu'on laissa là toute seule, assise sur sa chaise. Elle était bien soulagée de se trouver seule pour pleurer tout son content quand elle entendit, au bout du corridor, la voix de Joe qui souhaitait bonne nuit à quelqu'un. Elle l'entendit encore marcher dans le corridor et passer devant la porte. Seulement, sa marche trahissait quelque hésitation. Il revint sur ses pas, comme le cœur de Dolly se mit à battre, et regarda dans la chambre. « Bonne nuit !» Il n'ajouta pas « Dolly », mais c'est égal, elle était bien aise qu'il n'eût pas dit non plus « Mademoiselle Varden ».« Bonne nuit !» sanglota Dolly. « Je suis bien fâchée de vous voir encore si affectée de choses qui sont maintenant passées pour toujours, » dit Joe avec bonté. « Ne pleurez donc pas. Je n'ai pas le courage de vous voir si triste. Voyons, n'y pensez plus. Vous voilà maintenant sauvée et heureuse. » Dolly n'en pleurait que de plus belle. « Vous avez dû bien souffrir pendant ce peu de jours, et pourtant je ne vous trouve point du tout changé, si ce n'est peut-être en bien. On m'avait dit que vous étiez changé, mais moi je ne vois pas ça. Vous étiez déjà très jolie, mais vous voilà plus jolie que jamais. C'est vrai, comme je vous le dis. Vous ne pouvez pas m'en vouloir de vous faire ce compliment, car enfin, vous le savez bien vous-même. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on vous l'a dit, bien sûr. » La vérité est que Dolly le savait bien et que ce n'était pas la première fois qu'elle se l'entendait dire, loin de là. Mais il y avait des années qu'elle avait reconnu que le carrossier n'était qu'un âne batté, et soit qu'elle eut peur de faire la même découverte chez les autres ou que, à force d'entendre, elle se fût blasée en général sur les compliments, il est sûr et certain que tout en pleurant bien fort, elle se sentait plus flattée de celui-là dans ce moment qu'elle ne l'avait jamais été de tout autre auparavant. « Je bénirai votre nom, » dit en sanglotant la bonne petite fille du serrurier, « tant que je vivrai. Je ne l'entendrai jamais sans me sentir briser le cœur. Je ne l'oublierai jamais dans mes prières, soir et matin, jusqu'à la fin de mes jours. « Vraiment ?» fit Joe avec vivacité. « Est-ce bien vrai ? Cela me rend, vous ne sauriez croire comme cela me rend heureux et fier de vous entendre dire de ces choses-là. » Dolly sanglotait toujours en tenant son mouchoir devant ses yeux et Joe restait toujours là, debout, à la regarder. « Votre voix, dit-il, me reporte avec tant de plaisir à mon bon vieux temps que, pour le moment, il me semble comme si cette soirée, je peux bien en parler, n'est-ce pas, maintenant, de cette soirée-là, comme si cette soirée était encore là et qu'il ne fût rien arrivé dans l'intervalle. J'ai oublié toutes les peines que j'ai endurées depuis. Et il me semble que c'est hier que j'ai rossé ce pauvre Tom Cobb et que je suis venu vous voir mon paquet sur l'épaule avant de décamper, rappelez-vous. » Si, elle se rappelait. Mais elle ne dit mot. Elle leva seulement les yeux un petit instant. Ce ne fut qu'un coup d'œil, un petit coup d'œil timide et larmoyant, mais qui fit garder à Joe le silence bien longtemps. « Bah !» finit-il par dire résolument, « il fallait que ça arrivât comme c'est arrivé. Je suis donc allé bien loin me battre tout l'été et me geler tout l'hiver depuis ce temps-là. Me voilà revenu, la bourse aussi vide qu'en partant, et estropié par-dessus le marché. Mais voyez-vous, Dolly, c'est égal. J'aimerais mieux encore avoir perdu l'autre bras. J'aimerais mieux avoir perdu ma tête que d'être revenu pour vous voir morte, et non pas telle que je me figurais toujours vous voir.
tel que je n'ai pas cessé d'espérer et de souhaiter vous retrouver. Ainsi, au bout du compte, Dieu soit loué. Ah, comme la petite coquette d'il y a 5 ans était devenue sensible depuis ce temps-là. Elle avait fini par se trouver un cœur. C'est parce qu'elle n'en connaissait pas tout le prix qu'elle avait tant méconnu le prix du cœur de Joe. Mais à présent, elle ne l'aurait pas donné pour tout l'or du monde. « N'ai-je pas eu autrefois, » dit Joe avec son ton de franchise un peu brusque, « l'idée que je pourrais revenir riche et me marier avec vous ? Mais dans ce temps-là, j'étais un enfant. Et il y a longtemps que je ne suis plus si bête. Je sais bien que je ne suis qu'un pauvre soldat, licencié et mutilé. Trop heureux maintenant de traîner son existence comme il pourra. Pourtant là, vrai, même à présent, je ne peux pas dire que ça me ferait plaisir de vous voir marier, Dolly, mais c'est égal. Je suis content, oui, je le suis, et je suis bien aise de l'être, en songeant que vous êtes admiré et courtisé, et que vous pouvez, quand vous voudrez, choisir à votre goût un homme pour vous rendre heureuse. C'est une consolation pour moi de savoir que vous parlerez quelquefois de moi à votre mari, et je ne désespère pas d'en arriver un jour à l'aimer, à lui donner une bonne poignée de main, à venir vous voir quelquefois comme un pauvre ami qui vous a connu, petite fille. Que Dieu vous bénisse. » Sa main tremblait, mais avec tout ça, il sut bien la contenir et quitta Dolly.